Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un livre de Simone Weil, à savoir L'Enracinement. Donc, L'Enracinement est un essai philosophique écrit par Weil en pleine guerre en 1943. Ce livre est inachevé parce qu'elle va mourir quand elle est en pleine rédaction. Et l'ouvrage va être publié après la guerre en 1949 par un de ses plus grands admirateurs, à savoir Albert Camus, qui trouvait cette femme rayonnante et admirait cet ouvrage pour sa vérité, parce que ce livre, pensait-il, devait s'appliquer au monde entier pour reconstruire une humanité qui avait perdu tout sens, tout simplement, avec la guerre. Donc avant de parler du livre en lui-même, nous allons parler de Simone Weil, qui est très intéressante. Donc elle est née en 1909 dans une famille très catholique, ce qui va donner à Simone Weil une certaine proximité avec les plus dominés dans la société du 20e siècle. Elle était très engagée pour les affaires sociales, particulièrement. Elle va s'opposer à toute forme de violence, de ségrégation, d'harcèlement, de racisme, et va aussi lutter contre les inégalités. Elle est étudiante, elle va suivre les cours de philosophie d'Alain, qui va beaucoup l'inspirer. Elle va intégrer l'école normale supérieure et va obtenir son agrégation en philosophie en 1931. Ensuite, Simone Weil va s'engager dans une carrière atypique en étant volontaire ouvrière à la chaîne de production dans une usine Renault pendant un an jusqu'en 1935. Elle va assister à une expérience unique où elle va s'essayer à la production incessante du travail à la chaîne, ayant comme modèle le taylorisme, un travail épuisant. Et c'est intéressant parce que elle ne va pas seulement rester dans le théorique, mais elle va aussi faire ce qu'elle dit, enfin faire ce dont elle parle. Donc, et toute sa vie, on va retrouver une certaine proximité de la philosophe avec les personnes modestes. Et sous le Front populaire en 1936, elle s'engage dans les brigades internationales. En 1941, elle devient à nouveau ouvrière, mais cette fois dans l'agriculture. Et sous l'occupation, alors que l'occupation se durcissait en 1942 et que les rafles se multipliaient, Simone Veil décide de quitter la France pour rejoindre New York dans un premier temps et Londres dans un deuxième temps et travailler aux côtés de Gaulle, aux côtés de la France libre. Cependant, en juillet 1943, Veil est atteinte de la tuberculose et elle est contrainte à la démission. Cependant, elle refuse tout soin et refuse l'alimentation par solidarité à tous les Français opprimés en territoire occupé. Et va mourir un mois plus tard, en août 1943, laissant cette œuvre, L'Enracinement, inachevée, dont nous allons parler tout de suite. Donc l'ouvrage se compose de trois parties, les besoins de l'âme, l'enracinement et le déracinement. Chaque partie sont constituées de plusieurs chapitres. Alors, par exemple, le premier aborde l'ordre, la liberté, l'obéissance. Le deuxième aborde, par exemple, le déracinement ouvrier, ainsi que le déracinement paysan et le déracinement et la nation. Donc, dans l'enracinement, Weil explique que l'obligation est plus importante que le droit qui en découle. Donc le droit en fait se construit autour de l'obligation. Nous avons des droits parce que nous avons des obligations dans une société démocratique telle que la nôtre. Elle commence même en disant clairement la notion d'obligation prime sur celle du droit, qui lui est subordonnée et relative. Donc l'obligation a besoin d'être reconnue pour être suivie. Elle a besoin d'être légitime, de même que pour le droit. Et pour Weil, ce qui fait la différence entre le droit et l'obligation est que le droit doit être conditionné, alors que ce n'est pas forcément le cas pour l'obligation. Nous avons un droit, nous avons le droit de faire cela, à condition d'autre chose, ce qui n'est pas forcément le cas pour l'obligation. Une obligation est beaucoup plus stricte et irréfutable et incontestable. Ensuite, Weil prend l'exemple de la Déclaration des droits de l'homme, parce que oui, dans son livre, Simone Weil va beaucoup faire allusion à de nombreux épisodes historiques, notamment très récents, et elle va tout le temps les confronter à sa thèse, voir quel est le problème. C'est ce qui va donner beaucoup de grandeur à ses propos. Donc là, elle va parler de la Déclaration des droits de l'homme et de la Révolution, en expliquant que les hommes en 1789 ont trop vite appliqué les droits, et du coup ils se sont plongés dans une confusion. Dans une confusion parce que on ne distinguait plus la différence entre droit et obligation, et une espèce d'anarchie régnait au-dessus de la Révolution, et ainsi nous avons connu les Français ont connu après la Terreur. Donc elle dit qu'il y avait un gros problème à ce moment-là, et que ce problème de confusion entre obligation et droit se pose tout le temps dans la société du XXe siècle. Et pour la philosophe, les hommes sont liés par les mêmes obligations. Cependant, parfois, deux obligations identiques non, excusez-moi, deux obligations se confrontent. Et par exemple en temps de guerre. Et donc nous sommes obligés de désobéir. Par exemple, après la défaite de la France, nous avions deux obligations. L'obligation de l'État français qui nous disait de cesser les combats, et l'obligation peut-être de la morale de Gaulle, qui nous disait qu'il fallait poursuivre les combats au nom de la France. Donc là, l'obligation, notre âme est obligée finalement de désobéir à l'une des deux obligations. Et Weil ensuite distingue la collectivité de l'être humain, parce que la collectivité est éphémère. Donc elle veut dire par collectivité là, finalement une civilisation, parce que chaque civilisation a une fin, alors que l'être humain, lui, a une destinée éternelle. Il peut passer de civilisation en civilisation, mais l'être humain sera toujours le même, alors qu'une civilisation, qu'elle soit romaine, perse, aura tout le temps une fin. Et donc la seule chose éternelle est le devoir envers l'être humain. Donc, dans son livre, Weil va ensuite parler des obligations qui sont imposées à l'homme, et elle va énumérer les besoins que ces obligations font émerger. Donc, Weil explique d'abord que la première obligation est de nourrir son prochain. Donc, on va retrouver l'inspiration catholique de Simone Weil. Elle va reprendre l'Ancien Testament et elle va insister sur les besoins vitaux, comme nourris ton prochain. Ça pourrait aussi être en fait tout ce qui est des besoins qui permettent de vivre, des besoins vitaux, comme l'obligation de s'habiller, l'hygiène aussi. Et la seconde obligation que Weiss cite est l'obligation morale. La solidarité, par exemple, dans une période de crise. Par exemple, dans la période que nous connaissons actuellement, le coronavirus, c'est ne pas trop sortir. Ou donner des masques aux EHPAD et aux hôpitaux. Et Veil va donner un exemple de société qui en est tout le contraire, de cette solidarité, de toutes ces obligations finalement, c'est le totalitarisme. Parce que elle va parler, elle va prendre une image du totalitarisme comme un système finalement qui mange l'homme, comme un espèce de monstre qui va manger toute sa population. Parce que donc voilà, donc après elle va faire un parallélisme, pas vraiment un parallélisme, mais elle va parler de la démocratie qui n'est pas parfaite, telle que la démocratie française, la République française, qui, elle, ne donne pas assez à manger à ses hommes, à ses riverains, ce qui explique les inégalités entre les Français. Une certaine partie de la population française est très riche, tandis qu'une grande majorité est encore paysanne, ouvrière et très pauvre. Donc finalement, la République ne donne pas assez à manger à ses habitants, alors que le totalitarisme, lui, mange ses habitants. Donc, nous allons voir que Veil est très engagé pour cette cause du social et pour une amélioration des démocraties, pour une meilleure répartition des richesses, des besoins vitaux, comme elle l'a dit, parce que c'est la première des obligations de l'homme que de nourrir son prochain. Or, dans la France qu'elle connaît, ce n'est pas le cas. Il y a encore trop d'inégalités. Et voilà, donc elle veut aussi que tout le monde puisse bénéficier de vêtements dignes, de soins, d'hygiène. Et à la fin du premier thème du livre, à savoir le besoin de l'âme, elle établit des distinctions entre l'essentiel du superficiel, nous aide à distinguer nos désirs, par exemple. Donc elle va vraiment distinguer qu'est-ce qui est vital et qu'est-ce qui est en fait qu'est-ce qu'on pense être vital, mais qui en fait n'est qu'un désir, n'est que quelque chose qui est superficiel dans la société qui, comme aux États-Unis par exemple, vit de plus en plus sur la prospérité. Cependant, cette dernière partie, nous n'allons pas trop la développer dans notre analyse. Et nous allons aborder la deuxième grande partie du livre, à savoir le déracinement. Donc le déracinement a pour origine la relation entre les individus, les inégalités de richesse, comme la domination économique de certains sur une majorité. Elle va parler de la guerre et elle commence par aborder le déracinement ouvrier. Donc comme nous l'avons dit avant, elle a fait l'expérience ouvrière et va en témoigner. Donc elle commence par dire, je regarde juste, excusez-moi, il est une condition sociale entièrement et perpétuellement suspendue à l'argent, c'est le salariat. Donc nous voyons bien que Veil est très engagée du point de vue social et et qu'elle soutient les ouvriers en disant qu'il y a trop d'inégalités de répartition des richesses. Le premier déracinement, dit-elle, est celui du chômeur, qui est un peu marginalisé de la société, qui est un peu déraciné de tout. Il n'a pas de lieu de travail. Parfois, il n'a plus de logement, parce que dans certaines sociétés, il n'y a pas d'aide aux chômeurs, ou en tout cas à l'époque. Il se retrouve dans la rue, rejeté des partis, rejeté des syndicats, et totalement exclu de la société. Donc Veil accuse aussi l'instruction de son temps, parce qu'elle dit que c'est un acteur important du déracinement. Nous apprenons pour nourrir notre culture, nous apprenons aussi pour s'insérer socialement, et nous sommes obsédés, dit-elle, pour les examens, le prestige. L'instruction est devenue intéressée. Une instruction qu'elle oppose d'ailleurs à l'instruction idéalisée de l'Antiquité. Et Veil va parler du déracinement comme une maladie touchant les sociétés du XXe siècle et de plusieurs siècles précédant le XXe. Une société qui est élitiste et ne valorise pas assez ses paysans, ses ouvriers. Donc là encore, elle prône pour répartir la richesse et valoriser et redynamiser ces secteurs. Donc, Veil va aussi dire que le déracinement est à l'origine de l'émergence du nazisme et du totalitarisme en général. Qu'elle va faire une analyse historique en disant que Hitler a pu accéder au pouvoir à cause de la crise de 1929-1932, à cause du nombre important de chômeurs, à cause de cette espèce de rancune des Allemands. Donc voilà, finalement, le résultat de cette société qui n'était pas, qui laissait apparaître trop d'inégalités. En revenant aux origines de la crise de 1929, on peut penser aussi à la surproduction, une société trop libérale qui n'était pas assez modérée et pas assez qui n'était pas assez égale. Donc elle parle aussi de la défaite qu'a connue la France en 1940, qui est due à une France déracinée. Elle témoigne de ses expériences dans les usines Renault de 1931, de 1934, excusez-moi, où elle parle d'un passage brutal de l'éducation à un travail laborieux et difficile, où l'homme n'a pas sa place, il n'a plus de responsabilité, si ce n'est que visser le boulon qui est devant lui. Il est presque devenu un objet, l'objet de son patron, qui travaille finalement jusqu'à l'épuisement et jusqu'à son remplacement. Donc pour Veil, l'amélioration des conditions du travailleur via d'une remise en cause de la production, c'est peut-être produire moins et assurer les ouvriers, les travailleurs, de ne pas travailler trop dans d'épuisantes conditions. Et que les patrons s'assurent qu'ils ne commettent pas des tâches trop dangereuses. Nous avons connu ça par exemple avant avec le travail dans les mines, où le patron avait tous les pouvoirs. Et après avoir parlé du déracinement paysan, elle va aussi parler du déracinement des nations, mais nous n'allons pas en parler. Pas en parler ici. Nous allons finir par parler brièvement de l'enracinement, qui est finalement la sortie, l'élan du déracinement. Donc, dans cette partie, Veil va va exposer sa conception sur, donc sur le, ce qu'elle appelle le déracinement, le, oui, le, non, l'enracinement, excusez-moi. Donc elle pense que elle va essayer de comprendre comment réintégrer l'homme dans une société qui a été déracinée, et notamment une accentuée par la guerre. Donc la guerre, elle pense aussi à l'occupation, au régime de Vichy, qui est un peu le résultat du déracinement. Elle va imaginer la refondation la refondation d'une France sur de nouvelles bases, et va beaucoup s'inspirer de la Grèce antique, un idéal un peu pour elle. Donc c'est pour ça que Camus parle du livre de Simone Veil comme étant l'un des ouvrages peut-être les plus importants du XXe siècle, parce que nous voyons que toutes les mesures qui vont être prises par De Gaulle après la guerre, à savoir la sécurité sociale, des aides aux chômeurs, bah finalement peut, et émergent aussi un peu avec les idées de Simone Veil, qui sont, à ce point de vue-là, en fait, elle a très bien compris la société française et la société en général. Elle dit que voilà, depuis des siècles, l'homme admire la politique de façon passive, et elle admire aussi la façon dont les hommes politiques gardent le pouvoir, comme s'il y avait une différence entre eux et les politiques. Mais pour elle, le pouvoir n'est pas une fin en soi, et elle appelle à la participation démocratique de tous. Et donc, comme nous allons voir après la guerre, avec le GRPF mis en place par De Gaulle, le droit de vote aux femmes, finalement, c'est un peu l'aboutissement de ce que disait Simone Veil dans son livre. Donc voilà. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié, qui était compliqué à certains moments, mais ça en valait le coup. Donc je vous remercie pour votre attention et votre écoute, et je vous dis à la prochaine.